Vous êtes bien sur Radio Judaïka entre 13h15 et 14h pour la nouvelle émission dont vous avez maintenant l'habitude hein, pour ces 45 minutes où nous allons décrypter l'actualité. Et aujourd'hui évidemment l'actualité, eh bien elle se base hein, sur ces négociations qui prennent place depuis maintenant un peu plus d'une semaine. Benjamin Netanyahou a annoncé qu'il se rendrait à Washington la semaine prochaine. Il devrait arriver samedi soir pour entamer des visites à partir du lundi 7 juillet. Il va évidemment rencontrer le président Donald Trump. Ron Dermer est également à Washington pour rencontrer de hauts responsables à la Maison Blanche. Une visite qui constitue le troisième déplacement de Benjamin Netanyahou à Washington depuis le retour de Donald Trump au pouvoir en janvier 2025, ce qui témoigne de l'intensification des relations entre les deux dirigeants. C'est donc tout ce qu'on va décrypter aujourd'hui. On vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez réagir aux avis de nos intervenants. Vous pouvez téléphoner au 02 648 18 59 ou vous pouvez également vous rendre sur Facebook, sur X ou sur la page YouTube de la radio. Vous pouvez laisser un commentaire et puis eh bien nous serons présents pour relayer vos opinions. Et on va le dire, donc on va donc commencer avec la présentation de nos invités. Isaac Franco, géopolitologue, analyste politique et chroniqueur de l'émission Chercher l'erreur, tous les lundis de 17h à 18h. Bonjour, merci d'être avec nous.
Bonjour Blaise, bonjour à tous.
On va donc accueillir également Sébastien Lévy, journaliste, spécialiste des États-Unis, correspondant des cahiers Bernard Lazare à New York. Bonjour Sébastien Lévy.
Bonjour Blaise, bonjour à tous.
Et notre troisième invité, Philippe Carsanti, porte-parole des Républicains in France. Merci beaucoup Philippe Carsanti d'être avec nous. Vous êtes donc porte-parole des Républicains in France. Alors messieurs, on va tous les trois parler aujourd'hui donc de cette visite du Premier ministre Benjamin Netanyahou à Washington. Je le disais donc, un troisième visite du Premier ministre israélien depuis le retour de Donald Trump en janvier 2025. On va évoquer évidemment un cessez-le-feu proche, ou que l'on dit proche en tout cas, à Gaza. On va également parler de la libération des 50 otages qui sont toujours aux mains des terroristes. On a l'impression que depuis quelques semaines, Isaac Franco, Donald Trump a fait une priorité du Moyen-Orient.
Oui, troisième visite du Premier ministre israélien dans le bureau ovale à Washington, c'est presque une extension de son bureau à Jérusalem. Pas mal de sujets sont à discuter entre les deux leaders. Il y a naturellement la guerre à Gaza, l'intervention israélienne suivie de l'intervention américaine en Iran, l'élargissement des accords Abraham et accessoirement, si on a le temps, la discussion sur les tarifs douaniers qui pèsent sur les exportations israéliennes aux États-Unis. Alors, je pense que s'il y a un déplacement du Premier ministre à Washington aujourd'hui, la semaine prochaine, à très très brève échéance, c'est que, manifestement, les discussions concernant la fin de la guerre à Gaza et la libération des otages ont fait un pas en avant. Et le déplacement de Ron Dermer, qui se trouve pour l'instant d'ailleurs à Washington, est là pour en témoigner. Si le Premier ministre se déplace à Washington, ça peut vouloir dire que l'un des deux antagonistes, je parle du Hamas d'un côté et Israël de l'autre, a fait un pas en avant, et un pas significatif suffisant pour justifier le déplacement du leader israélien. Alors lequel a fait un pas en avant, c'est difficile à dire, tant les positions sont paraissent en tout cas inconciliables, puisque les Israéliens estiment que, aussi longtemps que le Hamas n'a pas été éradiqué, il ne peut pas être mis fin à la guerre et que seule la poursuite de celle-ci permettra la libération des otages, alors que du côté du Hamas, il faut des conditions claires pour mettre fin à l'intervention israélienne, fin à la guerre, ce qui signifierait que le Hamas réussirait à survivre à la riposte israélienne au 7 octobre. Il y a une problématique qui est beaucoup plus large que Gaza, même plus large encore que l'Iran, c'est l'élargissement des accords Abraham.
On y reviendra un peu plus tard.
Tous les pays qui souhaitent éventuellement rejoindre ces accords Abraham posent comme précondition, il ne peut pas y avoir d'élargissement, en tout cas normalisation de chacun de ces pays avec Israël, aussi longtemps que la guerre de Gaza dur. Voilà, ça, ce sont un peu les termes de la négociation, des négociations, des discussions qui vont s'ouvrir entre le Premier ministre israélien et le président américain.
Mmh. Oui. Sébastien Lévy, le rôle de Donald Trump dans ces négociations pour décrocher, premièrement, un cessez-le-feu avec l'Iran, maintenant un cessez-le-feu à Gaza et une libération des otages, il est primordial.
Oui, il est primordial. Bah, d'ailleurs, je pense qu'il faut rappeler que c'est sous Donald Trump, en fait, que la libération des otages avait eu lieu à son investiture autour du 20 janvier. C'était un accord qui avait été plus ou moins négocié par Joe Biden, mais c'est clairement Donald Trump qui avait été capable d'y mettre vraiment de le concrétiser. Donald Trump, en fait, il est dans une position de force. Il a montré sa solidarité envers Israël. Il a une popularité extrêmement forte auprès des Israéliens. Il se sent en position de force aujourd'hui, non pas nécessairement pour imposer un règlement de la situation à Netanyahou, mais clairement de lui imposer une certaine pression. Et il est possible que Benjamin Netanyahou lui-même se sente renforcé par l'épisode victorieux de la guerre contre l'Iran, se trouve en position de force par rapport à sa coalition, c'est-à-dire que même d'un point de vue de popularité aujourd'hui, s'il devait y avoir des élections, il n'est pas du tout certain que Benjamin Netanyahou les perde. Et donc, ça le met en position de force par rapport à sa coalition, notamment à son extrême droite qui ne voulait en aucun cas d'un accord sur Gaza. Aujourd'hui, ils ont beaucoup moins en main cette carte politique. Et je pense que c'est un contexte qui est beaucoup plus favorable pour éventuellement la fin de la guerre et la libération des otages. Et j'ajoute une chose, et je rejoins complètement Isaac Franco, il ne peut pas y avoir d'élargissement des accords d'Abraham sans règlement de la question palestinienne, mais au moins règlement fin de la guerre de Gaza. Et il se trouve que ça peut être présenté d'une autre façon, c'est-à-dire qu'on sait que le Hamas est extrêmement opposé aux accords d'Abraham et à toute normalisation dans la région. Et donc Benjamin Netanyahu aujourd'hui pourrait présenter la situation comme une défaite du Hamas, défaite quand même assez large sur le plan militaire, et puis défaite politique, parce que si demain vous avez une normalisation dans la région, c'est un deuxième coup extrêmement fort porté au Hamas. Donc il y a peut-être un contexte extrêmement porteur aujourd'hui. Et donc c'est dans ce contexte que Benjamin Netanyahu se rend à Washington. Ce qui est important, et en tout cas ce dont on parle beaucoup ici, Isaac Franco l'a souligné à juste raison, le fait que ce soit la troisième visite, c'est en soi un fait politique extrêmement fort. L'alliance entre les deux hommes et donc entre les deux pays n'a jamais été aussi forte.
En ligne, Philippe Carsanti, vous nous entendez ?
Oui, je vous entends.
Alors, j'aurais aimé vous entendre. On a entendu Sébastien Lévy, Isaac Franco sur l'importance de cette troisième visite en quatre mois du Premier ministre Benjamin Netanyahou à la Maison Blanche chez son collègue Donald Trump. On remarque vraiment un resserrement des liens entre les deux. Et Benjamin Netanyahou se rend à la Maison Blanche parce qu'il y a des avancées, comme Isaac Franco le disait.
Oui, c'est vrai. J'ai écouté un petit peu les précédents intervenants. Et il y a quelque chose qui selon moi, est assez important à rappeler, c'est l'importance capitale du Qatar. Je crois que le vrai problème, le vrai nœud du problème sur tous ces sujets-là est à Doha, au Qatar. On dit souvent que l'Iran est la tête de la pieuvre, mais en fait, la tête financière et intellectuelle de la pieuvre est à Doha. C'est-à-dire que ce sont eux qui alimentent l'antisémitisme dans le monde entier, ce sont eux qui alimentent le djihad dans le monde entier. Et je crois que tant qu'on n'aura pas réussi à faire pression sur le Qatar, nous n'arriverons à rien. J'en veux pour preuve, par exemple, que lorsque le 7 octobre a eu lieu, les chefs du Hamas étaient bien à Doha, et c'est de là qu'ils se sont filmés en train de se féliciter du 7 octobre. J'en veux aussi pour preuve que quand Donald Trump est arrivé à Doha, le Qatar lui a offert en cadeau la libération de l'otage américano-israélien. Tout ça pour dire quoi ? En fait, la vraie question qu'on doit se poser, et moi donc en tant que porte-parole du comité Trump France, c'est de savoir qui à Washington aujourd'hui a le plus d'influence. Est-ce, les pro-israéliens, pro-occidentaux, ou est-ce les pro-qataris ? Et il ne faut pas oublier que malgré tout, dans l'entourage de Donald Trump, il y a des pro-qataris très impliqués. Je pense notamment à Pam Bondi, l'actuelle ministre de la Justice, qui était une ancienne lobbyiste du Qatar, qui touchait plus de 100 000 dollars par mois officiellement du Qatar avant de rejoindre l'administration. Donc, pour moi, dans ce qu'on est en train de voir et de ce qu'est en train de faire le gouvernement israélien en étant vraiment très proche de Donald Trump, et très clairement, on ne peut pas imaginer de meilleur ami que ce qu'en a été Donald Trump pour Israël ces derniers mois, en tout cas, et même lors de son premier mandat, c'est vraiment de savoir ce qu'on va faire du Qatar. C'est vraiment, je dirais pour moi, le point essentiel, et c'est là, et vous le voyez donc à tous les niveaux, vous le voyez dans les médias internationaux, vous le voyez dans les politiques internationaux. Souvenez-vous à Bruxelles la corruption au Parlement européen, ces gens-là achètent absolument tout le monde. Et c'est vraiment, je crois qu'il faut le comprendre. Regarde, je sais pas si vous regardez aussi en Belgique bien les chaînes françaises, les chaînes d'information françaises. Par exemple, il y a une chaîne comme LCI, on peut dire qu'elle est contrôlée par le Qatar. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment important de comprendre cette influence. Et il y a aussi cette influence dans certains réseaux, même des réseaux conservateurs américains.
Messieurs, Isaac Franco, analyste politique, géopolitique et chroniqueur dans l'émission Chercher l'erreur de 17h à 18h sur Radio Judaïka, Sébastien Lévy, journaliste spécialiste des États-Unis, correspondant des cahiers Bernard Lazare à New York, et Philippe Carsanti, porte-parole du comité Trump France. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été avec nous cet après-midi. À bientôt sur les ondes de Radio Judaïka.
Au revoir.